Aujourd'hui, en ce 15 mars, c'est la fête d'une sainte merveilleuse que tout le monde aime et qui est très connue, heureusement. C'est la fondatrice des Filles de la Charité, qu'on appelle les Filles de la Charité de Saint-Vincent de Paul. Cette immense congrégation de ces sœurs que l'on voyait autrefois en France, et elles sont venues à un moment donné à Montréal avec ce costume absolument fantastique et unique au monde, qui les faisait se distinguer partout sur la terre, c'est-à-dire un immense costume bleu avec un fichu, c'est-à-dire un grand mouchoir blanc sur les épaules et une coiffe, c'est-à-dire une espèce de chapeau, si vous voulez, une coiffe qui se pliait et qui faisait jaillir de la tête deux immenses ailes qui étaient très, très larges quand elles entraient dans les tramways à Montréal et qu'elles s'assoyaient le long des fenêtres. Il fallait qu'elles s'appuient la tête contre la fenêtre pour faire monter cette coiffe en l'air. Et de la main, de l'autre main, bien, elle redressait l'autre morceau de la coiffe pour permettre aux gens de passer dans l'allée. Puis vous dire, ce costume était excentrique dans un sens, mais pourtant, c'était le costume des humbles femmes de l'époque du XVIIe siècle. Le costume des servantes. Et c'était le costume qu'avait choisi une femme très riche qui a fondé ça, et c'est sainte Louise de Marillac, à l'exemple et sous la conduite de Saint-Vincent de Paul. C'est tout dans l'esprit de Saint-Vincent de Paul. Alors, on est au cœur de la pratique de l'Évangile, au cœur de l'amour des plus pauvres, au cœur du service que Jésus nous appelle tous à rendre et à remplir pour changer cette société, pour la transformer et répandre de la joie, de la douceur, de la compassion, de la tendresse et aussi des changements. Du changement d'attitude complet vis-à-vis ceux qui ont besoin d'aide. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. C'est aussi la fête aujourd'hui d'un bienheureux bénédictin qui est mort en 1915, dont Placide Ricardi, dont je vous parlerai une autre année, et de ce grand saint qui est Clément Marie Hofbauer, rédemptoriste, qui est mort en 1821 et qui était le fondateur d'une communauté importante que l'on retrouve à Québec. Et un martyr aussi en Angleterre qui m'est très cher, qui est martyrisé sous Élisabeth Ière, William Hart. C'est un récit bouleversant que le récit de la mort de cet homme, de ce prêtre admirable. Mais nous passerons donc à Sainte Louise de Marillac, qui est une veuve. Oui, c'est une femme mariée qui a eu un enfant, un seul. Elle s'appelait Madame Legras, après son mariage. Elle est morte en 1660. C'est une Parisienne, en plus de ça. Presque toute sa vie s'est déroulée à Paris. Elle est née, Louise Marillac, donc à Paris même, le 15 août 1591. Elle était la fille de Louis de Marillac, qui était au seigneur de Ferrières, donc il avait une certaine fortune. Il était conseiller au Parlement aussi. Alors, il avait de bons revenus. Sa mère s'appelait Marguerite Le Camus, c'était sa seconde femme. Presque aussitôt après sa naissance, Louise de Marillac perd sa mère. Et son père se remarie pour la troisième fois. Alors, elle est toute jeune, elle n'a pas connu sa propre mère. Et sa mère ne tient pas tellement à sa présence, comme bien des femmes à l'époque, et on se débarrassait assez facilement des enfants. On les mettait auprès de nourrices, on les mettait dans des couvents, on se débarrassait assez facilement des enfants. Le sentiment maternel à cette époque n'était pas toujours très très noble et très répandu. C'était la coutume, c'était très étrange. D'ailleurs, beaucoup de féministes relèvent ces questions-là afin de voir à ce que certaines d'entre elles, enfin certaines féministes très audacieuses, là, croient que vraiment nos enfants doivent être placés dans des organisations, des institutions, un peu comme faisaient derrière le rideau de fer, les communistes dans certaines régions. Enfin, c'est un point de vue que je ne partage pas personnellement. Je crois qu'un enfant a besoin, même au retour de l'école, de la présence de sa mère et de son affection, de sa tendresse, d'être serré à 6, 7 ans, 5 ans, contre sa mère, qui l'aide à étudier, qui lui donne une collation, etc. Bon, passons. Alors, la pauvre elle, bien, elle n'a pas connu ses plaisirs de la maison. Elle a été confiée à la direction des Dominicaines de Poissy, qui doit faire son éducation. Les Dominicaines étaient assez exigeantes. Alors son père, Monsieur de Mariac, a trouvé que cette éducation était un peu trop exigeante, un peu trop forte. C'est pas ça qu'il voulait pour sa fille. Alors il la retire de cette chez les bénédictines, les dominicaines de Poissy, et il la confie à une maîtresse habile et équilibrée, qui va lui apprendre des ouvrages convenables à sa condition, car elle est de la bonne bourgeoisie, de la haute bourgeoisie. C'est pas un malheur que d'être de la haute bourgeoisie si on a du cœur, puis on sait apprendre des choses pour aider les autres. Souvent on dit bourgeois, c'est un terme péjoratif, ça peut être aussi un terme de service. Même les aristocrates, je dirais. Parce qu'il y a de grands aristocrates qui ont su être vraiment nobles de cœur et humbles. Et on en a vu hier cette reine qui était une sainte, n'est-ce pas? Sainte Mathilde. Et alors, Louise est formée à gouverner un ménage, à diriger une maison, quoi. À accomplir aussi par elle-même toutes sortes de travaux domestiques, les plus rudes, les choses les plus humbles et les plus simples. Car la femme qui s'occupe d'elle est pleine de bon sens. Et son père, qui s'occupe d'elle, lui fait faire des fortes et solides lectures. Il veut vraiment qu'elle soit une femme instruite aussi. Il veut qu'elle cultive même la peinture et le dessin, ce qui est assez rare à l'époque. Elle a des dispositions, d'ailleurs, pour les arts. Et la religion, évidemment, n'est pas négligée. C'est une famille chrétienne. Louise apprend donc à connaître les vérités chrétiennes, en même temps qu'on la forme. Un esprit de prière sincère, solide aussi. Elle a vraiment une formation complète. Elle en vient, dès le début, évidemment, à désirer entrer au couvent. Ben, c'est normal avec toute cette formation, surtout à l'époque. Souvenons-nous, il n'y a pas si longtemps, les gens de mon âge se souviennent que dans les années 30, les années 40, presque tout le monde songeait, plus ou moins sérieusement, à rentrer dans des couvents, des monastères, se donner comme missionnaire en Afrique, en Chine, chez les Esquimaux, chez les Amérindiens. Presque tout le monde songeait à devenir particulier, presque tout le monde voulait se donner. C'était le don général qui nous habitait. C'était extraordinaire quand on y pense. Tout s'est grandement disparu, évidemment. Alors, c'était pour elle assez normal que de vouloir entrer au couvent. Alors, elle voulait la perfection de la vie religieuse. C'est ça qui l'attirait. Et c'est aussi, à cette époque-là, le renouvellement de la vie religieuse en France. C'est dû à la réforme protestante qui, par contraste, fait renouveler la vie religieuse dans l'Église catholique, car il y a une contre-réforme dans l'Église catholique. Et Louise était prise d'admiration, là, en face des exemples. Oui, les exemples, c'est très important, hein, qu'elle a sous les yeux en voyant certaines religieuses. Alors elle prend intérieurement, simplement, l'engagement d'entrer chez les Capucines de la rue Saint-Honoré à Paris, les Capucines qui vivent très pauvrement et qui sont une vie très exigeante, comme les Capucins. C'est des sortes de franciscains, ça. Hein? Alors, comme elle est d'une santé plutôt faible et délicate, elle est pas malade, mais c'est pas une femme très forte, alors c'est évidemment pas sa place. Alors, elle a 13 ans vers 1604, et la mort de son père la laisse seule. Dans ce monde, elle est orpheline. Mais elle est de famille à l'aise, quand même. Plus tard, à 22 ans, elle épouse Antoine Legras. C'est un homme qui est destiné à acquérir une assez grande fortune. De plus, comme on dit dans le temps, c'est un homme de bonne vie. Et c'est un homme qui aime Dieu, qui craint Dieu de la bonne façon. Et il est irréprochable. Donc, les mariages célébrés en 1913, là, le 6 février, à la fin de cette même année, elle met au monde son fils Michel Legras. Ce fils pour lequel Madame Legras, Louise de Mariac, est plus que mère, dit-on. J'ai l'expression de Saint-Vincent de Paul qui l'a connu. Parce qu'elle va travailler avec Saint-Vincent de Paul, comme je vous ai dit. Et ensemble, ils auront fondé ces grandes congrégations qui vont exercer une charité inimaginable, extraordinaire. Bon, je tiens à vous le dire tout de suite. Pensez-y que quand au début de notre siècle, en France, il y a eu un déferlement contre les congrégations religieuses en France, sous la direction de Monsieur Combes, que l'on appelait le petit père Combes, c'était un athée extrêmement enragé contre toute forme de vie religieuse. Ben, il a tout chassé. Les chartreux, comme les trappistes, les bénédictins, les cisterciens, les capucins, les franciscains, et tout, et tout, et tout, et tout. Il a chassé toutes les communautés religieuses de femmes, il a tout vidé, les hospices, les orphelinats, c'était incroyable, hein? Tout chassé, ils ont tous passé la frontière. C'est comme ça, d'ailleurs, que les communautés religieuses françaises se sont répandues dans le monde. C'était finalement une façon de répandre la foi à travers le monde. Mais les Français étaient terrifiés. Mais le petit père Combes, il n'a jamais osé renvoyer les sœurs de la charité de Saint-Vincent-de-Paul que Louise de Marillac va fonder. On va voir ça tout à l'heure. Alors, un peu plus tard, le jeune ménage, dit Legrain, quitte la paroisse Saint-Méry, M-E-2-R-Y, à Paris, qui est assez connue, pour la paroisse du Saint-Sauveur, rue Courteau-Villain, je signale ça pour ceux qui connaissent mieux Paris, où Madame Legras, toujours Louise Marillac, mène la vie du monde, conforme à sa situation, mais elle donne à son entourage des exemples de charité active et ingénieuse envers les pauvres. En 1519, elle a la chance de rencontrer Saint-François de Sales. Ça va le toucher, ça va la toucher, ça. Et lui aussi, il sera touché. Quelques années plus tard, en 1522, donc moins de 10 ans après leur mariage, son mari est atteint d'un mal qui, dès l'abord, paraît incurable. Alors, Madame Legrand en est troublée. Elle y voit une punition pour n'avoir pas été fidèle à son désir de se faire religieuse. C'est toujours cette conception malheureuse, hein, comme si Dieu nous punissait pour des affaires comme ça, comme si Dieu pouvait tuer le mari, la femme, l'enfant. Mais c'est épouvantable, cette façon de penser. Mais que voulez-vous? C'est des vieilles traditions qui traînent dans les religions et même dans la nôtre, et qui viennent du temps des cavernes, je crois, où nos ancêtres avaient peur de Dieu, d'une peur comme si Dieu était un être abominable. Et alors, elle regarde donc ça comme la cause du mal de son époux. Puis évidemment, elle est jeune, évidemment, elle prend l'engagement, si elle vient à le perdre, de ne jamais se remarier, de se donner tout entière au service de Dieu. Mais de cette mauvaise interprétation des choses naît une bonne idée. Elle a 31 ans, le 4 mai 1623, quand elle fait ce vœu. Un peu soulagée à la suite de ce vœu, elle retombe vite dans un grand abattement. Elle se demande si elle ne doit pas changer de directeur. Elle a des doutes sur l'immortalité de l'âme, hein, qui s'élève dans son esprit. J'aime bien ça, moi. Une grande sainte qui a des doutes sur l'immortalité de l'âme. Hein. Ne nous énervons pas quand nous avons des doutes sur la foi. Les saints en ont eu. Et le jour de la Pentecôte, 1623, durant la Sainte Messe, elle reçoit intérieurement la vie de demeurer avec son mari. La voix ajoute qu'un temps viendra où elle sera en état de faire le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté et ce beau vœu d'obéissance qui est bien déconsidéré aujourd'hui. Et qu'elle a à se tenir calme au sujet de son directeur. Dieu y veille. Dieu en donnera un. Dieu va lui en donner un pour lequel elle aura d'abord de la répugnance. C'est ce qu'elle entend au fond d'elle-même. Et enfin, elle doit se tenir assurée que Dieu l'instruit. Et que du moment qu'il y a un Dieu, elle ne doit pas douter du reste. C'est beau cette parole intérieure qu'elle reçoit. Hein? Du moment qu'il y a un Dieu, elle ne doit pas douter du reste. Alors Louise a toujours la conviction que cette grâce lui a été faite par l'intercession du bienheureux évêque de Genève, mort depuis peu de temps, Saint-François de Sales, qu'elle avait rencontré. Et le directeur du moment, là, son directeur de conscience, c'est Monseigneur Camus, évêque de Belley, dans le sud de la France. C'est la région où est Ars, l'évêque de Belley. C'est là qu'était le curé d'Ars. Et elle n'a pas pu revenir à Paris à la fin de 1623. C'est-à-dire, son directeur n'a pas pu revenir à Paris à la fin de 1623. Alors, il l'exhorte par lettre à accepter la très, comme il l'écrit dans le style du temps, à accepter la très aimable volonté de Dieu qui rend tout aimable, avoir dans la maladie de son mari une croix qu'elle doit porter avec courage. Il n'y a rien de mal à dire ces paroles-là, mais c'est dans le style de l'époque. Et en 1624, l'année suivante, Madame Legras, donc Sainte-Louise de Marillac, passe sous la direction de Vincent de Paul, Saint-Vincent de Paul, qui est encore précepteur là, dans la fameuse maison de Gondi, des gens très très riches. Il s'occupe des enfants. Et cela sur la demande de son directeur, Monseigneur de Belley, qui lui dit de prendre Vincent de Paul. Elle comprend que c'était le directeur qui lui avait été annoncé intérieurement, et elle lui ouvre son âme complètement. Elle prend conseil de lui complètement, elle s'appuie complètement sur lui pour ses décisions. Et le 21 décembre 1625, son mari meurt. Tout ça se fait très rapidement. Alors, il rend le dernier soupir, lui, dans les bras de sa femme. Il est mort dans les bras d'une sainte, sa femme. Et celle-ci devient libre pour l'œuvre à laquelle Dieu l'a préparée depuis longtemps. Le guide de Madame Legras, Louise de Marillac, est prêt à la conduire. C'est à ce moment, lui écrit Monseigneur de Belley, qu'il faut se serrer et se presser contre la croix, puisque vous n'avez plus que cet appui sur cette terre. Alors, nous verrons si vous avez aimé Dieu comme il faut, puisqu'il vous a ôté ce que vous aimiez beaucoup. Quand on perd beaucoup, c'est là qu'on peut comprendre que Dieu nous appelle peut-être à l'aimer davantage parce qu'on est libéré, chose étrange, de certains amours magnifiques et beaux qui auraient pu nous empêcher d'accomplir ce que Dieu nous demande. Il y a des gens qui n'aiment pas trop que je parle de moi, mais je résiste pas à la tentation. Mon fils est mort il y a près de 2 ans et je peux vous assurer que je n'aurais jamais pu faire les émissions que je fais si mon fils était toujours là. Je n'aurais pas pu. Il prenait tellement de mon temps. 40, 50 heures par semaine. On n'arrive plus. Alors, Madame Legras va avoir 35 ans. Elle en a passé 13 dans les liens de mariage et au milieu de la vie du monde. Et le moment est venu de mettre la main à une œuvre qui va produire d'incalculables fruits. Alors, Louise de Marillac commence par établir rue Saint-Victor dans un ancien hôtel plutôt délabré. Elle est dans le voisinage du collège des bons enfants, qui est très connu à Paris, que Madame de Gondi vient de fonder et de donner à Monsieur Vincent. Elle s'y prépare sans bruit à sa mission. Elle fait une retraite de 8 jours, 2 fois par an. Pas de mauvaise idée. Dont elle résume par écrit, elle prend des notes, elle résume par écrit les impressions, pour les communiquer à son directeur, Saint-Vincent de Paul. Elle écrit aussi un acte de consécration à Dieu qu'elle rédige en 1627, se consacrer à Dieu. Je ne pourrais jamais trop vous conseiller à tous de prendre un bout de papier et de vous consacrer à Dieu. Vous pouvez être marié avec 10 enfants, je ne vous empêche pas de le faire. Vous pouvez être évêque et vous pouvez le faire aussi. Se consacrer par écrit, ça fait quelque chose. Et le bon Monsieur Vincent, qui ne veut jamais enjamber sur les desseins de Dieu, bien, il joue le rôle de modérateur pour calmer son enthousiasme. Alors, il impose des délais. Il est occupé, lui, à fonder des charités, c'est-à-dire des espèces de groupements de dames et de filles. Vous savez, on voit ça dans le film Monsieur Vincent. Il groupe des dames qui sont des beaux... des costumes, elles sont très à l'aise, c'est des bourgeoises qui ont du temps de libre, puis des filles de bonne famille, pour l'assistance des malades dans les paroisses, puis les visites à domicile dans les milieux très pauvres. Alors, il y emploie Madame Legras, sans rien changer à sa vie ordinaire, parce qu'elle a toujours son fils. Alors là, en 1628, elle a 37 ans, son fils a 15 ans, Michel. Et Michel Legras, bien, il entre au séminaire de Saint-Nicolas-du-Chardonnay à Paris. Il s'adonne à sa mère, Sainte Louise de Marillac, plus de liberté de se consacrer aux œuvres de M. Vincent. M. Vincent la charge de la surveillance de l'ensemble des charités, c'est-à-dire l'ensemble des œuvres, de visiter celles même des provinces, d'en modifier le règlement pour la ville. Alors on la voit inspecter successivement les associations fondées dans les environs de Paris. Elle se dépense sans compter. Elle en arrive à distribuer une bonne partie de sa fortune. C'est un oubli complet d'elle-même. Elle avertit M. Vincent des difficultés. Alors il constate qu'il y a des modifications qui s'imposent dans les charités de Paris en particulier. Malgré leur bonne volonté, les dames associées, qui sont des dames distinguées, bien vêtues, etc., ne peuvent pas toujours rendre aux malades les services souvent très très pénibles qu'exige leur état. Est-ce que c'est nécessaire de mettre les points sur les i, hein? Bon, disons discrètement, là, donner des bains, laver des grandes malades très pauvres qui n'ont pas pris un bain depuis un an, car ça existait. Louis XIV ne prenait son bain qu'une fois par année. Il faut des personnes donc courageuses et humbles. Pas facile pour une bourgeoise qui a un titre ou une noble d'être vraiment humble près des plus pauvres. C'est, on peut exiger des choses, mais il ne faut pas aller outre mesure. Alors c'est... Ça prend des gens courageux pour se dévouer entièrement à l'œuvre, sans autres devoirs et préoccupations du dehors. Faut pas qu'elle ait trop d'obligations. Elle a d'ailleurs de bonnes filles de village qui sont déjà offertes. Et c'est un petit noyau de bonnes filles, comme on dit, qui grossit d'abord sans faire de bruit. Puis en février 1631, la première qui s'était offerte est morte de la peste. Comme vous voyez, c'était pas un travail facile. Elle a été victime de son dévouement. Les années qui suivent sont marquées par des catastrophes qui ruinent la famille des Marillac. Alors Louise de Marillac prend sa part de ses pertes, mais ça ralentit pas son courage pour le bien. Il sent même que c'est de cette épreuve que doit sortir et naître là la Société des filles de la charité, qu'on appelle les filles de Saint-Vincent de Paul. On n'a pas prévu ça. Le 29 novembre 1633, dans une petite maison de l'ancienne rue des Fossés-Saint-Victor, aujourd'hui la rue du Cardinal Lemoine, on voit ça à Paris, hein, Madame Legras, qui est dirigée en ceci, comme toujours, par M. Vincent, elle réunit 4 ou 5 bonnes filles des champs, c'est-à-dire de la campagne, qui vont former comme les bases de la congrégation et qui seront les premières sœurs de la charité. C'est des débuts modestes, hein, qui vont prendre une dimension qui va surprendre tout le monde. Les fondateurs eux-mêmes, d'ailleurs plus que personne, l'œuvre pourtant était très difficile et les jeunes filles, les veuves à former venaient des classes bien différentes. Il y avait des femmes là-dedans qui étaient à peine dégrossies. Et elles avaient besoin de tout apprendre, elles ne connaissaient rien. Mais toutefois, elles ont de la bonne volonté. Elles sont remplies d'un amour pour Dieu et pour le prochain. C'est ça qui fait des vraies chrétiennes et des vrais chrétiens, hein. Et Louise de Marillac, ben, elle apporte, elle, toute sa sainte ardeur à la formation de ses filles. C'est une femme instruite, hein. Elle voit dans cette fonction l'état que Dieu lui avait fait entrevoir autrefois. À 43 ans, le 25 mars 1634, jour de l'Annonciation de la Sainte Vierge, et bientôt c'est la fête de l'Annonciation, hein, elle s'y engage par un vœu irrévocable, avec lequel elle renouvelle son vœu de veuvage. Et cette date est le jour où les filles de la charité renouvellent chaque année, le 25 mars, leur vœu religieux prononcé seulement pour un an, hein. C'est une congrégation assez spéciale, comme vous voyez. Ainsi, l'œuvre est fondée à l'insu des fondateurs, si on peut dire, qui étaient loin de soupçonner son accroissement fantastique, son extraordinaire utilité pour l'Église et pour les pauvres. Et dans une première conférence à ses filles, Vincent de Paul trace le programme de la mission que Dieu a confiée à Sainte Louise de Marillac, et il indique le moyen de la remplir, à savoir, c'est très beau, ça se perfectionner sans cesse, pour faire toujours plus et mieux. Et là, c'est magnifique. Devenir meilleure et plus sainte pour faire toujours plus de bien autour de soi. Et tout d'abord, dans l'admission du sujet, on tient plus à la valeur qu'au nombre. Et l'on est plutôt sévère dans le choix. Puis, on comprend la nécessité d'un règlement fixe. Et lorsqu'il s'agit d'écrire ce règlement, bien, M. Vincent de Paul Alors malade et surchargé de besogne, bien il laisse ce soin à Louise de Marillac. Il dit, « Dieu le veut, pour que je ne mette pas la faux dans votre moisson. » Et dès les premiers mois de 1634, bien Louise de Marillac rédige là, un court projet, une sorte d'horaire qui est encore aujourd'hui le fond de la règle des sœurs de charité, et ce fruit de l'expérience déjà faite, paraît excellent aux yeux de M. Vincent. « Cela est si bien, lui écrit-il, que je n'ai voulu rien ajouter. » Le 31 juillet 1634, il le lit et commente dans la première de ses conférences aux 12 pauvres filles qui l'écoutent. Et du réveil, fixé à 5 heures, mais s'est reporté à 4 heures parce qu'il y a tellement de travail, il passe l'heure de prière de l'oraison. Et c'est là, dit-il, dans l'oraison et la prière, le centre de la dévotion, que Dieu nous y donne les déluges de bonnes pensées. Et c'était la grande amie de Saint-Vincent de Paul. C'est Saint-Vincent de Paul, je vous l'ai dit tout à l'heure, en parlant de la prière et de l'oraison pratiquée par les sœurs qui viennent d'être fondées, les sœurs de la charité de Saint-Vincent de Paul. Eh bien, il dit que c'est dans la prière, dans l'oraison, c'est le centre de la dévotion. Dieu nous y donne des déluges de bonnes pensées. Et c'est grâce à M. Vincent que le commentaire du règlement de la congrégation devient une exhortation à faire toujours mieux. Il veut pas écrire un règlement. Il veut écrire un règlement qui est inspirant. Alors, parlant de la douceur et de la patience dans le soin des malades, il dit quelque chose de bien important qui s'applique à chacun d'entre nous dans notre travail n'importe où. Je pense qu'il n'y a pas une personne qui peut pas écouter ces paroles sans dire « Ah, ça, c'est fait pour moi », puis c'est sorti de la bouche de Saint-Vincent de Paul. Supporter, dit-il, leurs petites humeurs. Ne vous fâchez jamais contre eux et ne leur dites pas de paroles rudes. Ah, mes filles, ils ont assez que de souffrir de leur mal. Pensez au contraire que vous êtes leur ange gardien visible, leur père, leur mère. Ne les contredites quand ce qui leur est contraire. Dieu vous a établi pour être leur consolation. Dieu vous a établi pour être leur consolation. Alors, sur les heures de lecture et d'étude, il dit, appliquez-vous à apprendre à lire, non pas pour votre propre consolation, pour utilité particulière, mais pour vous rendre capable d'instruire les petites filles. Alors, il les exhorte à l'obéissance envers leurs supérieurs. Il dit, honorez aussi les malades, et considérez-les comme vos maîtres, d'obéir aux malades, d'obéir aux pauvres, d'obéir à ceux que l'on aime et que l'on veut servir. Il leur recommande à ses sœurs l'humilité, le sentiment de leur petitesse. Oui, nous sommes petits, et ce qui est grand en nous vient de Dieu. Sans Dieu, qui serions-nous? Notre intelligence, je vous le répète, notre cerveau, nos yeux, nos mains, notre santé, tout ça, c'est créé par Dieu. Moi, j'en suis absolument convaincu, en tous les cas. Alors, il les excite à une confiance inébranlable dans le secours de Dieu. Ainsi, dès le début, les premières recrues ont été uniquement à Dieu et aux pauvres. Alors, grâce à l'aide des premières filles de la charité, l'œuvre des dames a fait des rapides progrès, obtenu de grands résultats. Dès la première année, la bénédiction de Dieu assure la conversion de plus de 760 personnes qui étaient, comme on disait à l'époque, dévoyées de la vraie foi. 760 personnes en un an. Comme quoi la charité et l'Évangile vécu transforment le cœur des gens. Ça leur fait comprendre qui est Jésus-Christ et où est le bonheur. C'est pas compliqué, évangéliser. Hein. C'est pas si compliqué. Madame Legras, c'est-à-dire Louise de Marillac, y prend une très grande part. Tant pour son inlassable dévouement, n'est-ce pas? Par la sûreté, la netteté de sa pensée, que par la formation de ses filles. Alors, ces jeunes femmes restent toujours sa première œuvre et sa plus chère. Tant de soins et de sollicitudes ne demeurent évidemment pas stériles, alors la petite compagnie, si on peut dire, grandit rapidement. Partout où les sœurs sont connues, et à même d'exercer leur mission, l'abbé, on réclame leur présence. On les réclame partout. Il faut songer à s'agrandir. Alors, le logis de la rue des Fossés-Saint-Victor, dont je vous ai parlé tout à l'heure, était visiblement bien trop étroit, là. On se transporte à la chapelle Saint-Denis en mai 1636. Puis dans cette nouvelle demeure, ben, Sainte-Louise de Mariac, à 45 ans, commence plusieurs de ses grandes œuvres, les œuvres principales, les retraites, les petites écoles, les enfants trouvés. Les enfants trouvés, c'est quoi? C'est les orphelins. Les orphelins, oui, qu'on abandonne à l'entrée des églises ou à l'entrée des couvents. Elle veut s'occuper aussi de quoi? Des galériens. Ça vous dit quelque chose, des galériens? Mais oui, la plupart d'entre vous, vous savez que c'est ça, c'est ces pauvres malheureux qui, souvent pour un vol ou je ne sais quoi, sont condamnés aux galères, c'est-à-dire à ramer sur d'immenses bateaux, enchaînés et fouettés. C'était terrible, hein? Alors, elle n'oublie cependant pas son propre perfectionnement intérieur. Elle sait qu'il faut qu'elle veille sur elle-même si elle veut persévérer. Parce que c'est la base indispensable d'une action intérieure. Hein? Une action extérieure qui va être vraiment bonne, vraiment profitable. Et la caractéristique de son œuvre, mais c'est l'union de ces deux genres de vie. Hein? Action et contemplation. C'était jusqu'alors distinct, au moins pour les femmes. Hein? Il n'y avait pas de communauté aussi active que ça. C'était nouveau, nouveau, nouveau. Et ici, au pays, la première qui va faire ça, c'est Sainte-Marguerite Bourgeois. Alors, la première, Madame Legras, en donne l'exemple à ses filles. Puis elle réalise ce programme que M. Vincent de Paul va placer plus tard au début de ses règles, en disant « Les filles de la charité auront pour tout monastère une maison de malades. » C'est beau, hein? « Les filles de la charité auront pour tout monastère... » une maison de malade. Pour cellule, une chambre de louage. Une chambre louée, quoi. Pour cloître, les rues de la ville ou les salles des hôpitaux. Pour clôture, vous savez, la clôture dans un monastère, c'est l'endroit où un homme ou une femme cloîtré ne peut pas traverser. Il est enfermé, comme dans une prison, mais c'est une prison d'amour, une prison... Je sais ce que c'est, j'ai vécu ça et j'ai aimé la clôture. Il faut aimer ça. Il faut être peut-être un peu tordu, je sais pas. Enfin. Alors, pour clôture, leur clôture, ça va être l'obéissance. Puis pour grille, n'est-ce pas, dans les monastères de femmes, il y avait des grilles pour aller au parloir et même pour assister à la messe. Et c'est à travers la grille que les femmes recevaient la communion. Ça existe encore. Alors, pour grille, la crainte de Dieu et pour voile, la sainte modestie. Alors, les idées sont bien nouvelles hein, pour l'époque, mais Sainte Louise de Mariac réussit à les faire prévaloir. Puis à la chapelle Saint-Denis, ben Louise de Mariac commence à appliquer les sœurs à l'instruction des petites filles, à l'enseignement du catéchisme. Dans l'œuvre des enfants trouvés, elle est aux côtés de M. Vincent de Paul, qui joue un rôle discret et caché, mais néanmoins, il est très actif. Et c'est finalement un rôle prépondérant qu'il remplit. Et la maison de la chapelle ne se prête pas à ce genre d'œuvre. Alors, la chapelle Saint-Denis, là. Alors, on en loue une dans le faubourg Saint-Victor et celle-ci devient bientôt trop petite. Alors, on place les enfants chez des nourrices à la campagne. On ne sait plus quoi faire. Et après l'installation des sœurs à Angers, le premier établissement qui se fait en province, ben, Madame Legras rentre à Paris en février 1640. Et ce fut pour s'occuper de l'œuvre des galériens dont je viens de vous parler. Alors, elle trace le règlement propre aux filles qui vont être destinées à cet emploi. Elle écrit, « C'est un des plus difficiles et des plus dangereux. Aussi est-il l'un des plus méritoires et agréables à Dieu quand on s'en acquitte comme il faut, avec amour. Les sœurs qui sont appliquées par la volonté de Dieu à ce saint exercice doivent d'une part tâcher de s'en rendre digne par la pratique des vertus, et d'autre part, s'encourager à avoir une grande confiance en notre Seigneur, et bien qu'il soit difficile d'empêcher des excès d'insolence contre elles, évidemment des galériens doivent être peut-être toujours polis à l'égard des sœurs, hein, elles ne laisseront pas d'y tâcher par le moyen d'une grande patience, et en priant Dieu pour eux, ainsi que faisait Saint-Étienne pour ceux qui le lapidaient. J'ai déjà raconté l'histoire de Saint-Étienne au lendemain de Noël, le premier martyr. Elles feront plusieurs fois le jour des prières particulières pour invoquer le Saint-Esprit. C'est beau, ça, pour invoquer le Saint-Esprit. afin qu'ils purifient si bien leurs pensées, paroles et actions, spécialement dans les tentations d'impureté, si elles en avaient. Ben, c'est des femmes quand même. Hein? Qu'elles soient comme la lumière du soleil, passant continuellement sur les ordures, sans pourtant se salir tant soit peu. Hein? Le soleil ne se salit pas quand il éclaire les ordures. C'est une belle image. Alors Louise de Marillac s'occupe toujours de son fils Michel avec une tendresse maternelle. Elle a une vivacité anxieuse que le bon M. Vincent de Paul a été parfois obligé de réprimer. Il dit, vous avez plus de tendresse que Casimir que je vois. Lui écrit-il, au nom de Dieu, laissez votre fils aux soins de son Père Céleste qui l'aime plus que vous. Ou pour le moins, ôtez-vous l'empressement. Et c'est vrai qu'on est porté, quand on est partagé entre deux choses, paraît-il, entre un fils, des enfants, et le désir de faire du bien, c'est pas facile de savoir où est la limite. C'est que pendant les années d'un labeur vraiment constant pour la charité, Louise de Marillac veille quand même sur son fils et sur son avenir autant qu'elle ferait si elle était restée dans le monde. Alors divers essais ne réussissent pas. Là, la pauvre mère se désole. Elle craint que ses propres fautes ne soient punies dans son fils. Alors, M. Vincent lui dit, au nom de Dieu, mademoiselle, il l'appelle mademoiselle puisqu'elle est veuve, corrigez-vous et sachez une fois pour toutes que ses pensées aigres sont du malin, du démon, et que celles de notre Seigneur sont douces et suaves. Souvenez-vous que les défauts des enfants ne sont pas toujours imputés au père, notamment quand ils les ont fait s'instruire et donner bon exemple, comme vous avez fait, Dieu merci. Alors, les angoisses de Louise de Marillac révèlent, on peut dire à merveille, la qualité de son âme, si simple, si naturelle. Elle est restée une mère au milieu de la plus ardente et de la plus active piété, presque comme une sœur. Et ça, tout ça, ça révèle aussi une grande intensité de sa vie intérieure, qui lui permet de se dépenser sans compter, malgré la faiblesse de sa santé puis la diminution de ses forces. Dans les notes et méditations qu'elle a laissées à ses filles, d'ailleurs, on retrouve son ardent amour pour Jésus, le désir de s'unir à lui, dans tous les états, où qu'elle soit, et d'arriver à cette union par le perfectionnement intérieur, comme par les œuvres extérieures qu'elle pratique, qui en sont évidemment le fruit, hein? Le besoin de se dévouer, de s'anéantir. De s'anéantir, c'est pas de l'auto-destruction, ça. S'anéantir, c'est l'amour qui fait ça. Pensez à une vraie mère qui se lève la nuit, qui devient faible à chérir ses enfants, à soigner ses enfants, un peu malades, etc. Elle le fait, elle s'anéantit, quoi. Elle pourrait rester couchée, puis ne pas s'en occuper, mais non. C'est un sentiment naturel, le dévouement, et une forme d'anéantissement. Elle voit le Christ dans les pauvres, d'ailleurs, dans les membres souffrants, qui forment son corps mystique. Cette vie intérieure, très élevée, est en même temps parfaitement simple. Elle n'offre aucune particularité extraordinaire. Louise Marillac, Madame Legras, commence d'abord par être une vraie, une grande chrétienne, dans l'acceptation la plus large et la plus complète et la plus élevée du mot. Et avant de fonder une grande, puis plusieurs grandes œuvres, elle est une chrétienne qui ne veut pas être autre chose. Elle reste toujours, à ses propres yeux, la même simple mademoiselle, comme on l'appelle, qui s'essaie seulement dans le bien, alors qu'elle voit le succès toujours grandissant ses entreprises. Les années 1641 et les suivantes sont particulièrement remplies par les œuvres. À 50 ans, durant les premiers mois de 1641, la communauté rentre à Paris, s'établit au faubourg Saint-Denis, rue Saint-Laurent, presque en face du prieuré de M. Vincent de Paul à Saint-Lazare, hein, la fameuse maison Saint-Lazare. Cette maison devient la maison mère, et Mme Legras y demeure jusqu'à sa mort. La fondatrice y organise définitivement son institut et surveille son développement. La règle jusque-là provisoire se fixe telle qu'elle subsiste aujourd'hui dans la forme comme dans le fond. Elles sont toujours les mêmes, ces sœurs. Et M. Vincent y prononce ses conférences que ses filles de Saint-Vincent de Paul, comme on les appelle aujourd'hui, recueillent avec soin pour être l'aliment des générations à venir, de très beaux textes de M. Vincent de Paul. Quelques années plus tard, quatre filles de la charité sont admises à prononcer les premières des vœux simplement annuels de chasteté, de pauvreté et d'obéissance, renouvelable, comme je vous ai dit beaucoup plus tôt, chaque 25 mars. La petite congrégation est autorisée et reconnue par l'autorité ecclésiastique avec Vincent de Paul comme premier supérieur et Madame Legras toujours, qui n'est pas religieuse, comme supérieure générale, mais avec le nom de servante des pauvres filles de la charité, comme plus conforme à la réalité de sa fonction. Dans la crainte de paraître établir un ordre religieux, les deux fondateurs évitent jusqu'au nom et à l'extérieur des religieuses. Les sœurs sont de bonnes filles des champs, comme on dit, des filles de la campagne, qui s'appliqueront au service des pauvres et des malades. Et la petite maison où on les forme s'appelle non le noviciat, mais le séminaire. Et le nom est encore usité aujourd'hui. Le costume, comme je vous ai décrit ça, c'est l'habit ordinaire des paysannes pauvres. C'est une robe grise qui est devenue bleue avec le temps, avec un collet blanc, un fichu, là, un mouchoir blanc sur la tête. Et ce mouchoir sera plus tard remplacé par la coiffe ou la cornette blanche que je vous ai décrite tout à l'heure, que les sœurs ont portée jusqu'à tout récemment. Alors, Louise de Mariac veut revêtir ce costume bien modeste, mais à cause de sa santé toujours frêle, elle doit reprendre un habillement plus chaud. En 1641, Madame de Chantal, dont je vous ai déjà parlé, venue à Paris pour visiter... Madame Chantal, c'est la copine de Saint-François de Sales, c'est elle qui a fondé les Visitandines, Madame de Chantal. Bien, venue à Paris pour visiter la maison de ses religieuses, peut voir ainsi, dans la petite maison du Faubourg Saint-Denis, l'œuvre naissante et étrange qui réalise la pensée première qu'elle avait eue, elle, quand elle a fondé les Visitandines. C'est ça qu'elle aurait voulu, mais on a obligé qu'elle soit cloîtrée. Les années où Madame Legras, Louise Mariac, travaille à la constitution définitive de son œuvre sont aussi les plus remplies, les plus actives de sa vie. Et malgré sa santé toujours plus défaillante, elle se donne avec ardeur, avec persévérance aux soins des malades. Elle s'occupe de ses œuvres fondées puis affondées. Puis elle s'occupe aussi de la formation des jeunes recrues, c'est toujours très important. Elle y fait preuve d'ailleurs d'un grand amour des pauvres, c'est une vraie maman, une vraie mère. Elle est d'une piété humble et forte aussi, d'une largeur pleine de bonté, unie à une fermeté inébranlable. Ce sont les témoignages de tous ceux qui l'ont connue. C'était une femme, je dirais pas exceptionnellement, en tout cas une femme merveilleuse. Une vraie femme, quoi. Et durant les années de la Fronde, vous savez, la guerre, là, elle doit se multiplier pour soulager les misères des pauvres gens. À côté de M. Vincent de Paul, on la voit avec ses filles se prodiguer pour le service des malheureux, le soin des malades, des pestiférés. Alors on commence partout à demander des filles de Mme Legras. Elles sont réclamées jusqu'en Pologne, où Marie de Gonzague, fille du duc de Nevers, devenue reine, les fait venir pour soigner les pauvres, pour apprendre à les soigner aussi, à les instruire. En 1653, Vincent de Paul reçoit une forte somme pour ses œuvres. Il a l'idée de fonder un hôpital pour les pauvres ouvriers âgés ou infirmes. Alors Louise de Mariac, qui est consultée par lui, juge l'œuvre excellente. Elle se charge, avec ses filles, de présider à l'installation et à la conduite de l'entreprise. Alors c'est là l'origine de l'hôpital du Saint-Nom de Jésus dont Madame Legras s'occupe jusqu'à sa mort. Je dis toujours Madame Legras, c'est pour bien spécifier que c'est une femme dans le monde, Sainte Louise de Mariac. Hein? Elle contribue de même à l'installation de l'hôpital général, de l'hôpital de la Salpêtrière, très connu, hein, l'hôpital de la Salpêtrière, une sorte de Louis-Polyte Lafontaine ou Saint-Jean-de-Dieu ou Saint-Michel-Archange. Hein? Elle accepte encore la mission de soigner les aliénés dans l'hôpital des Petites Maisons. Ainsi, chaque jour apporte en quelque sorte une œuvre nouvelle. Alors, ces dernières années ont un caractère spécial de douceur et de paix. La santé de Madame Legras, toujours plus mauvaise, n'enlève rien à son activité pour le bien. Mais le succès grandissant de ses œuvres formidables ne fait que la rendre plus humble et même plus défiante d'elle-même et de ses propres lumières. Alors, elle est docile aux exhortations de son maître spirituel, Saint Vincent de Paul. Elle se donne tout entière à la formation de ses filles. Elle veut les rendre de plus en plus dignes de leur vocation, en faire de vraies servantes des pauvres, de bonnes filles de paroisse, des saintes. les exhorte sans cesse à se sanctifier, à avancer dans les voies de la perfection par la mort à elle-même. C'est là qu'est le bonheur, il n'y en a pas d'autre. Je ne vous le répéterai jamais assez. Quand j'ai rencontré des saints et des saintes grâce à mon travail à la télévision à Radio-Canada, j'ai vu ce qu'était le bonheur. Et je l'ai vu dans bien des monastères. Je l'ai vu auprès de laïcs qui vivaient comme des saints. Que je vous dis de belles choses en ces paroles, mourir à soi-même, que ne puis-je les écrire de mon sang et vous les laisser en lettres d'or aux mes meilleurs amis en Jésus-Christ. Voilà ce qu'elle leur dit. Elle travaille à leur inspirer par son exemple la simplicité, la cordialité, la gaieté. Elle recommande dans ses lettres aux sœurs qui regrettent leur éloignement de ne pas pleurer, ce qui est aussi mauvais pour l'âme que pour le corps. C'est mauvais pleurer. Si l'humilité, dit-elle, la simplicité, la charité sont bien établies entre vous, votre compagnie sera composée d'autant de saintes que vous êtes de personnes. Alors elle-même met en pratique cet enseignement, ce qui donne à ses leçons évidemment une efficacité singulière. Elle est bien en cela la fille de ses deux maîtres, saint François de Sales et saint Vincent de Paul. Formée avec cette sollicitude maternelle, les filles de la charité recueillent tous les suffrages. Elles sont acceptées partout, elles sont admirées partout, elles dissipent les préjugés comme les étonnements que le genre nouveau de leur vocation avait rencontrés. L'autorité civile, d'abord, plutôt défiante de voir des sœurs dans les rues, ne tarde pas à revenir sur cette impression. Et en novembre 1657, l'approbation royale donne à la compagnie une existence légale. Et l'approbation pontificale du Vatican n'est octroyée que 10 ans plus tard, en 1668, et Louise de Marillac était morte. En somme, dès 1654, Madame Legras, Louise de Marillac, a dû envoyer des sœurs pour soigner les blessés à Sedan, sur la demande expresse et personnelle de la reine. Et là, les filles de la charité vont, malgré la nouveauté et les dangers de l'œuvre, et celles envoyées à Calais pour soigner des soldats malades d'une dangereuse épidémie sont atteintes du mal. L'une d'elles en meurt, 20 autres s'offrent pour la remplacer bientôt. On les demande jusqu'à Madagascar. Ça vous dit quelque chose, Madagascar, hein? Mer, dans la mer au sud de l'Afrique. Et les jours de la fondatrice sont comptés. Tout l'avertit que le moment suprême approche. Elle semble ne plus vivre que par miracle. Autour d'elle, les amis, fidèles, les collaborateurs des débuts, disparaissent. Elle supporte ses privations sans se plaindre. Et le 4 février 1660, à 59 ans, elle tombe définitivement pour ne plus se relever. Elle est prise d'une inflammation aiguë dans l'épaule. Une forte fièvre s'y joint. L'inflammation augmente. Il paraît urgent de lui faire recevoir les derniers sacrements. Alors on lui apporte l'Eucharistie, l'extrême-onction. Ses souffrances sont si vives qu'elle présente, qu'en présence de ses enfants, elle ne peut s'empêcher de s'écrier à mes enfants, qu'il faut souffrir avant de mourir. Et quand elle reçoit les derniers sacrements, bien elle bénit ses filles avec une espèce de solennité, dignité, puis elle ajoute « Vivez en bon chrétien ». Alors aux filles de la charité, elle donne aussi sa bénédiction, puis leur recommande l'amour de leur vocation, la fidélité au service des pauvres. Alors cette pauvre malade, Louise de Marillac, traîne encore pendant des semaines. La communauté croit même avoir obtenu sa conservation à cause de leurs prières, mais ce n'est qu'un répit, ou plutôt un surcroît de mérite, comme on disait, car elle ne cesse de souffrir et de son mal et des remèdes qu'on lui applique, des remèdes terribles à l'époque. Elle supporte tout sans crainte ni murmure. Le 9 mars, le mal augmente, la gangrène se met dans le bras malade. Elle demande à recevoir de nouveau l'Eucharistie. Et le 14, elle a ce bonheur qu'elle désirait tant, le 14 mars. Une des grandes épreuves de ces derniers moments est d'être privée de l'assistance de M. Vincent. Une grande infirmité prive celui-ci de lui rendre visite, alors elle lui envoie demander quelques paroles de consolation et lui fait dire par l'un de ses prêtres, car il a fondé lui aussi, qu'elle s'en va devant et qu'elle espère bientôt la voir, et qu'il espère bientôt la voir dans le ciel. C'est les dernières paroles de M. Vincent à Sainte-Louise de Marillac. Le 15 mars 1660, entourée de ses filles, Louise de Marillac s'endort paisiblement. Le curé de Saint-Laurent, qui s'est trouvé là sur la fin de son agonie, dit tout de suite après qu'elle eut expiré, dans les termes de l'époque, « Adieu, belle âme ». Et en sortant, il dit encore qu'elle emporte la grâce de son baptême. C'est une façon de parler qu'elle était aussi pure qu'au moment de son enfant, qu'elle était enfant. Alors le corps, après avoir été exposé pendant un jour et demi, est inhumé à l'église Saint-Laurent dans la chapelle de la Visitation de la Sainte Vierge, où elle faisait habituellement ses dévotions. Une grande simplicité marque ses funérailles, pour que suivant sa volonté, elle paraisse ainsi morte en vraie sœur de la charité, servante des membres de Jésus-Christ. Or, ses restes, finalement, sont transférés dans les différentes demeures occupées par les sœurs de la charité et miraculeusement préservés de la profanation sous la Révolution. Hein, les révolutionnaires n'y ont pas touché. Et sous le consulat, à la fin du 18e siècle, ils furent portés rue du Vieux-Colombier et enfin, sous la Restauration, donc après 1815, déposés dans la chapelle de la Maison-Mère actuelle, rue du Bac. Hein, aller à la chapelle rue du Bac vénérer sa tombe ainsi que celle de Sainte-Catherine Labourée. C'est là qu'est la médaille miraculeuse.